Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est présentée avec la participation de Numéricable. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2011 et c'est l'épisode numéro 46. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Aujourd'hui, on va vous parler de Japon, d'iPad, de Twitter, de plein d'autres choses aussi. Mais l'information principale... Oula, il y a quelqu'un qui tape sur son clavier. L'information principale qu'il y a pour aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un Rendez-vous Tech super classique de l'époque du classique, puisque ce séduisant rire suave que vous entendez est celui de notre ami Yann Allais.
Salut tout le monde, ça va très bien, ça va très bien, c'est vrai que ça faisait longtemps.
Quel plaisir de te voir revenir. Donc il y a Yann et Jeff, donc c'est vraiment les débuts du Rendez-vous Tech quoi.
Avec c'est les débuts
Non, enfin c'est comme au début, tu vois.
C'est les redébuts commencé.
Voilà, c'est ça.
C'est le retour.
Le reboot du Rendez-vous Tech.
Yann, the return.
Ouais, donc ouais, ça fait vachement plaisir. C'est vrai qu'avec le boulot, c'était assez tendu en ce moment. Mais bon, là, il y a une petite accalmie. C'est l'œil du cyclone. Donc, j'en profite pour faire un petit saut sur le Rendez-vous Tech. J'espère que je pourrai en faire d'autres. Mais voilà, quoi, je suis super content d'être avec vous, d'être avec la chatroom. Mais j'espère que le programme qu'on vous a sélectionné plaira à un maximum d'auditeurs. Voilà.
Bah écoute, en tout cas, tu sais que la porte t'est toujours ouverte, donc
c'est gentil.
quand tu peux, tu viens, ça fait plaisir. Donc tu t'es, oui, juste bon. Avant de commencer, il faut quand même te demander, tout va bien dans le Grand Nord, les enfants, enfin l'enfant, la famille, tout ça, le travail, tout va bien.
Ouais. L'hiver commence à montrer quelques signes de faiblesse, donc on est bien content. C'est vrai qu'on a eu de grosses neiges, mais bon, voilà, là on se balade pas encore en string dans la rue, mais voilà, on garde le t-shirt pour le moment.
Bon, tu nous envoies les photos quand ça arrive.
Ça, je n'y manquerai pas.
Et moi, je reviens
surtout
de Finlande.
Surtout le string dans la rue. Surtout le string dans la rue.
Moi, je reviens de Finlande en même temps, donc je connais bien ça aussi.
Ah, voilà.
Jeff, tout va bien aussi. Rapidos, avant de se lancer. T'étais à South by Southwest ou t'y es pas allé?
Non, je suis pas allé. J'ai passé presque 15 jours à Los Angeles en deux fois, et donc j'ai envoyé mon partner Charles, qui est plus jeune que moi, donc lui il a le stamina pour se faire toutes les parties les unes après les autres, parce que bon, South By, qu'on le reconnaisse, c'est une partie gigantesque, et avec quelques panels par-ci par-là, quelques discussions, mais à part ça, c'est les parties.
C'est surtout des gens qui se rencontrent et qui s'amusent, c'est bien vrai. D'ailleurs, il n'y avait pas d'énorme annonce à ce, pour ceux qui ne savent pas, South by Southwest est l'une des grandes rencontres autour de la technologie aux États-Unis. Et c'est surtout du networking, quoi. Il n'y a pas de grosses annonces. En tout cas, j'en ai pas retenu, moi. Bah écoutez, justement, lançons-nous dans l'émission à proprement parler. En commençant, évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer le désastre qui est en train d'avoir lieu au Japon. Il y a quelques angles technologiques dont on peut parler. Évidemment, bon, ça fait un petit peu bizarre de s'intéresser à l'angle technologique et, quand c'est une telle catastrophe et qui, en plus, n'est pas terminé parce que les réacteurs nucléaires sont visiblement encore en train de... Enfin, ont encore des possibilités d'explosion et de fusion et Dieu sait quoi encore. On ne va pas résumer ce qui s'est passé parce que tout le monde est au courant. Le tremblement de terre, le tsunami qui a suivi et aujourd'hui les problèmes dans la centrale nucléaire de Fukushima. Moi, ça me fait un petit peu bizarre parce que j'ai habité au Japon pendant quelques années, comme certains le savent. Mais on peut parler quand même un petit peu rapidement de ce qui s'est passé là-bas ensuite, parce que c'était quand même intéressant de voir comment la technologie a été affectée et comment elle a été utile. Il y a eu énormément de gens qui ont dit que sans des outils comme Twitter, Facebook, Skype, FaceTime, etc., ils n'auraient pas pu rentrer en contact avec leur famille et que ça les a énormément aidés. Et il y a d'autres choses qui m'ont particulièrement touché, c'était la manière dont les sociétés de technologie, bon bien sûr toutes, mais les sociétés de technologie en particulier, ont participé à l'effort qui a immédiatement suivi la catastrophe, avec notamment des histoires du genre, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais les distributeurs de boissons qui avaient été enclenchés en libre-service, en quelque sorte, juste après le tremblement de terre, pour que les gens aient quelque chose à boire.
Ah, c'est bien ça.
Ouais, c'était vraiment des histoires de ce type-là assez intéressantes. Il y a eu
élan de solidarité.
Ouais, complètement. Apple, par exemple, qui est là, visiblement, moi ça fait longtemps que j'y suis plus allé, mais visiblement c'est l'un des seuls. Les Apple Store sont un des rares endroits où il y a du Wi-Fi gratuit. Ils avaient mis le Wi-Fi gratuit, bien sûr, à la disposition de tout le monde, et en plus, ils avaient sorti des chargeurs pour que tout le monde puisse venir charger leurs appareils chez eux, et ils avaient mis les ordinateurs en accès libre pour que les gens puissent contacter leur famille et leurs amis par Skype et par FaceTime, etc. Il y a eu plein de petites histoires comme ça qui sont évidemment une sorte de petite lueur dans une terrible tragédie, mais je sais pas, c'est toujours un moment un petit peu rassurant sur l'humanité, presque, de dire qu'il y a des choses qui se passent quand même bien quand les catastrophes arrivent, quoi. Enfin bien, je veux dire que les gens se sont prêts à être un tout petit peu philanthropes quand les catastrophes arrivent.
C'était pas toujours désintéressé, malheureusement. Je me souviens avoir lu un tweet où malheureusement Microsoft a eu la très mauvaise idée de proposer une opération où pour chaque personne qui retweeterait un message avec Bing dedans, pour chaque message de ce type, $1 serait envoyé en don au Japon pour aider les familles. Donc voilà quoi, essayer de monter une opération marketing dans ce contexte-là, c'est assez dommage. Mais voilà quoi, dans l'ensemble
c'est intéressant cette histoire parce que d'une part, effectivement, elle a été vilipendée par tout Twitter qui a insulté Microsoft en disant, enfin oui, effectivement, c'est un petit peu pour le moins maladroit la manière dont ils ont présenté la chose. Ils avaient dit en plus avec une limite de 100 000 retweets, donc $100 000, à la limite ils auraient donné $100 000 à une organisation caritative pour aider, et ils auraient dit bah voilà, on donne $100 000, ça aurait été un petit peu mieux foutu. Mais ce qui est marrant, c'est que d'autres ont fait le même type d'opération plus ou moins et personne leur est tombé dessus, donc c'est sûr que c'était pour le moins maladroit, quoi.
Ouais, je pense que c'est une question de quand tu vois en fait les budgets Microsoft par rapport à ce qu'ils essayaient de récupérer. En plus, objectivement, je sais même pas si c'est Microsoft ou leur boîte de PR qui a fait ça, parce que bon, il y a toujours une boîte de social media marketing ou des experts en social media qui aident les grandes boîtes. Donc on ne sait pas qui est-ce qui a fait cette connerie, quoi, parce que c'est pas. C'est vraiment très déplacé. Martin Barskowski, le CEO de Phone, a participé à cet effort-là. Il a ouvert toutes les Phone Eras qui étaient au Japon pour que les gens aient accès à du free Wi-Fi.
C'est quoi
Phone, c'est donc un système qui te permet d'accéder à du Wi-Fi quand tu es en déplacement. Donc si tu as une Phone Era, une boîte, un routeur en fait chez toi et que tu l'ouvres à d'autres utilisateurs de Phone, quand toi tu es en déplacement à l'étranger, tu accèdes à du Wi-Fi gratuit au travers des... Donc c'est un espèce de réseau, si tu veux, de routeurs de Wi-Fi. Donc il a ouvert toutes les Phone Eras au Japon. C'est une boîte espagnole, c'est pour ça qu'on dit les Phone Eras. Il a ouvert toutes les Phone Eras au Japon pour que les gens aient accès à du free Wi-Fi
Pour ouais, pouvoir, comme nous dit Testman 57, c'est un petit peu comme Free ou Neuf qui a des réseaux. En fait, quand toi tu ouvres ton réseau Free en Wi-Fi, voilà. Tu peux aussi accéder aux autres. D'accord, ouais, je vois. Oui, donc effectivement, il y a eu plein d'efforts comme ça, vraiment intéressants. Et l'autre, enfin, le revers de la médaille, en dehors encore une fois de toutes les problèmes et la catastrophe en elle-même. C'est les conséquences, si on veut revenir un petit peu à la question de la technologie stricto sensu, tous les problèmes de principalement de fourniture de composants, parce qu'il y a une partie des fabricants de composants qui sont situés au Japon, et notamment Toshiba qui fabrique beaucoup de mémoire flash, Sony qui fabrique des éléments qui sont utilisés pour la PlayStation 3 ou d'autres produits, ou des lecteurs de Blu-ray, etc., qui vont plus pouvoir produire, évidemment. La mémoire flash, par exemple, est utilisée principalement dans l'iPad 2 ou dans des tablettes. Donc, effectivement, il va y avoir des retards, ou soit des retards, soit des augmentations de prix en raison de la catastrophe au Japon. Bon, c'est pas non plus la fin du monde, effectivement. Ils ont d'autres soucis à gérer en ce moment, mais voilà, il y a une conséquence directe sur l'industrie de la technologie. Sachant qu'Apple a annoncé aussi que la sortie de l'iPad 2 serait repoussée au Japon. En gros, ils ont dit, bon, je paraphrase, mais ils ont dit ils ont d'autres problèmes en ce moment, donc c'est pas forcément maintenant qu'on va sortir cette machine. Et c'est bien sûr complètement compréhensible.
Tout à fait.
Donc bon, si vous êtes croyant, envoyez vos prières au Japon parce qu'ils en ont bien besoin.
Ouais.
Voilà donc pour le Japon. On referme cette page un petit peu plus sombre que ce dont on a l'habitude dans le rendez-vous tech. Et puis bon, on va quand même parler de l'iPad 2 qu'on évoquait à l'instant. Je suis sûr que les opinions et les avis vont être partagés. Je crois pas qu'on ait parlé de l'iPad 2 la semaine dernière, il y a 2 semaines, l'annonce n'avait pas encore été faite. Donc je vais résumer très rapidement les fonctionnalités de l'iPad 2, je pense que tout le monde les a déjà entendues, mais au cas où, je vais quand même faire un petit résumé. Et ensuite, on pourra parler de la réception qui a été faite à cette nouvelle bestiole, puisqu'il est sorti en fin de semaine dernière aux États-Unis. Alors, pour résumer très très rapidement, c'est peu d'évolution au niveau des fonctionnalités. Il est plus fin de 33%, ce qui veut dire, c'est difficile de comprendre plus fin de 33%, mais ça veut dire qu'il est plus fin qu'un iPhone 4. Donc il est vraiment vraiment très fin. Il a toujours la même autonomie, il a une caméra devant, une caméra derrière. Les caméras sont vraiment de mauvaise qualité, c'est-à-dire que pour faire de la vidéo, ça va, ça fait même de la HD en 720, mais par contre, pour faire des photos, c'est vraiment pas super du tout. Et puis, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a un processeur double cœur qui est beaucoup plus puissant, notamment, enfin, il est plus puissant tout court, et beaucoup plus puissant sur les graphismes. Il y a vraiment une nette différence avec l'iPad 1. Les choses qu'il n'y a pas, c'est l'écran avec une meilleure résolution. Certains attendaient une sorte de Retina display pour iPad. C'est pas le cas. Et puis, ce qu'il n'y a pas d'autre, c'est un changement radical du système d'exploitation. A priori, ça viendra peut-être. La prochaine évolution du système d'exploitation viendra sans doute avec l'annonce de l'iPhone 5 d'ici quelques mois. Donc voilà. En gros, c'est. Je pense qu'on peut s'arrêter sur un consensus qui serait l'iPad 2, c'est une bonne mise à niveau de la machine, mais c'est pas un truc révolutionnaire, c'est-à-dire que ça le ramène au niveau des machines actuelles, des autres tablettes actuelles qui existent, mais ça ne va pas beaucoup, beaucoup plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion?
Ah oui, curieusement, oui.
Il est au même prix que l'iPad d'aujourd'hui, donc il n'y a pas de baisse ou d'augmentation de prix.
Donc
vas-y. Vas-y, Jeff, j'en prie.
Non, je t'en prie,
vas-y.
Honneur à Yann qui a été tellement peu présent.
Bah, écoute, non, je dois avouer que je suis assez d'accord avec ton analyse, hein. Bon, ben voilà, l'iPad 2, c'est une très belle tablette, une belle mise à jour matérielle par rapport à l'iPad 1, qui le remet un petit peu plus au goût du jour et en fait clairement l'une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure tablette disponible aujourd'hui sur le marché. Donc non, je pense que c'est incontestable. Maintenant, voilà, d'une société comme Apple qui avait pris ces dernières années l'habitude de tant innover, ben on reste un petit peu, enfin personnellement, je reste un petit peu sur ma faim suite à voilà quoi, à cet iPad 2. Voilà, je suis pas certain que enfin ce qui m'embête un petit peu plus, j'en parlais avec des développeurs au boulot, des gens qui ont l'habitude de faire des jeux vidéo. Ce qui se passe, c'est que les Apple continue de pousser des produits, donc l'iPhone 3, 3G, 4, l'iPad 2, etc. Donc ces machines deviennent de plus en plus puissantes, mais par contre l'Apple Store reste identique. Ce qui fait que de plus en plus de développeurs se retrouvent dans une position où ah ben tiens, là j'ai un iPad 2 où je peux faire des jeux qui sont 10 fois plus beaux que sur l'iPad 1. Mais voilà, comme finalement on pourra également télécharger l'iPad, enfin le jeu sur iPad 1, ben du coup je dois essayer de faire un truc qui je suis tiré vers le bas en fait avec l'iPad 1.
Ce que tu veux dire, c'est que l'Apple Store ne fait pas la différence entre les différentes machines.
Non, voilà, c'est ça qui est bien dommage.
Bah, et je pense que tu peux spécifier qu'un jeu n'est compatible qu'avec tel ou tel appareil, non ?
La dernière fois que j'ai vérifié, c'était pas possible. Hein. On se retrouvait avec des worms qui étaient beaucoup plus fluides sur un iPod, un iPhone 3GS ou un 4, et puis c'était carrément
mais
plus lent.
Mais j'ai l'impression que pourtant, parce que le iMovie, donc le logiciel de montage vidéo. Est disponible sur iPad 2 mais pas sur iPad 1. Donc c'est peut-être une nouvelle fonctionnalité.
Ouais.
Mais...
Tu dois pouvoir accéder à la définition de la carte graphique et la carte graphique n'est pas la même. Juste pour commenter sur iPad 2 versus iPad 1, donc j'ai pas encore le mien parce que moi j'attends parce que j'aime pas faire la queue. Donc malheureusement tout le week-end.
Se réduit un peu là, je sais pas si t'es en Wi-Fi ou.
Non, oui, je suis en Wi-Fi, mais attends, je vais arrêter mon backup.
D'accord.
Donc j'attends un petit peu. Voilà. J'ai pas voulu faire la queue ce vendredi ou samedi, et il y avait un nombre de gens monstrueux dans les deux Apple Store que j'ai à côté de chez moi, et ils sont à vide, ils ont plus rien. Et donc, toutes les deux heures, on appelle l'Apple Store parce qu'en gros, ils savent pas quand ils vont recevoir un nouveau contingent. Donc, on les appelle toutes les deux heures pour savoir quand est-ce qu'ils vont avoir des iPad 2. Et en gros, ce que mes copains qui, eux, ont fait la queue m'ont dit, c'est que la grosse, énorme différence, c'est la vitesse d'exécution des programmes sur la machine grâce à la nouvelle carte graphique. C'est-à-dire que parce que la carte graphique est beaucoup plus rapide, 9 fois plus rapide. En gros, toute l'expérience que tu as avec l'iPad a complètement changé. Et donc, tout le monde m'a dit, il faut impérativement que tu récupères ton iPad 2 parce que ça te change pas la vie. Donc,
Voilà. Ce qui est certain, c'est que tu vas mettre un moment à le récupérer parce que les ventes ont été encore plus grandes que celles qu'on imaginait, qui étaient déjà énormes. Certains parlent de 1 million vendus en un week-end, alors qu'il avait fallu à l'iPad 1, je crois, 28 jours pour en vendre 1 million. C'est vraiment des ventes... Bon, le million est estimé, hein. Il y a des chances qu'on se retrouve finalement avec, je ne sais pas moi, 5, 6, 7, 800 000. Et une chose qui est surprenante, c'est qu'il est probable que 70% de ces machines aillent à de nouveaux utilisateurs. Ça veut dire qu'il y a quand même 30% d'acheteurs, enfin de possesseurs d'iPad 1 parmi ces acheteurs, mais il y a quand même 70% de nouveaux convaincus. Donc, c'est clairement un énorme succès et les délais de livraison quand on le commande par le site d'Apple s'allongent, c'est-à-dire que dès la première nuit, quelques heures après les débuts de la commande, on en était à déjà 2 ou 3 semaines de délai et aujourd'hui on est à 5 semaines de délai. J'imagine qu'ils vont bientôt fermer les précommandes parce que c'est plus possible de ils vont pas prendre des commandes avec 2 mois de délai quoi. Donc C'est clairement un énorme, énorme succès, encore plus, encore une fois, que ce qu'on attendait. Et en parallèle, le seul concurrent sérieux qui est le Motorola Zoom, lui, n'est pas visiblement en train de très bien se vendre. Il y a beaucoup de gens qui disent que le Zoom est en train de se vendre... Que les ventes sont très décevantes, en tout cas. Au moment de l'annonce de l'iPad 2, c'est Samsung qui a dit « Bon, ben, on va aller revoir un petit peu notre copie sur le Galaxy Tab. » Bon, finalement, ils le sortent comme ça, mais le prochain modèle risque d'être un petit peu différent. Enfin, c'en est presque... Même moi, qui pourtant suis séduit par l'iPad, j'aurais pas imaginé une telle ampleur. Une telle ampleur et un tel succès.
Bah, je peux te dire que c'est un outil qui me semble, ou un device qui me semble être vraiment très bien pour une catégorie d'utilisateurs qui font vraiment que de la consommation, surtout de la consommation de contenu, que ce soit les gamins ou que ce soit les gens qui passent beaucoup de temps en fait à browser le web, à regarder des vidéos, etc. Je pense que c'est vraiment un outil extraordinaire, étant donné que la capacité de la batterie reste ouais. De l'ordre de 10 heures. Même quand je regardais une vidéo ce week-end sur mon iPad, j'ai même pas bouffé 15% de la batterie, quoi. C'est monstrueux pour un truc qui a duré 2 heures. Donc je pense que de ce côté-là, vas-y.
J'ai été surpris moi aussi. Enfin, quand il a annoncé iMovie et GarageBand, donc l'application qui est une sorte de d'enregistreur 8 pistes pour l'iPad avec lequel on peut faire de la musique aussi, j'ai été extrêmement sceptique, mais vraiment. Et finalement, donc GarageBand est sorti il y a quelques jours et il est lui aussi disponible sur l'iPad 1. Je l'ai téléchargé et franchement, j'ai été très surpris. Moi, au début, je me suis dit, c'est un jouet, ça n'a vraiment aucun intérêt pour qui que ce soit de sérieux. Et en fait, je ne suis pas si convaincu que ça, quoi. Il coûte 3,99€. Il faut que je le teste encore un petit peu. J'en parlerai sans doute dans Upload d'ici une semaine. Mais franchement, au niveau de la création... Si c'est aussi bien fait que ça, je suis plus aussi convaincu que ça soit impossible. Pour moi, c'était vraiment pareil. Hein, l'iPad, c'est une machine de consommation. Et là, avec GarageBand, il y a un truc, quoi. C'est super bien foutu.
Ouais. Enfin, ça n'en demande pas moins un produit de luxe. Hein, regarde autour de moi, la pénétration qu'a l'iPhone. Autour de moi est nettement supérieure à celle d'un iPad et y a pourtant beaucoup de gens autour de moi qui me disent ah c'est quand même bien un iPad etc mais voilà il y a beaucoup moins de personnes qui ont les moyens de s'en payer un donc voilà je ne suis pas certain de qu'un périphérique de ce type devienne ne serait-ce qu'en 2011-2012 un truc aussi incontournable qu'un iPhone 4 ou qu'un iPhone 5.
Non, qu'un iPhone non, mais ce qui va se passer en 2012 ou plus tard, hein, je ne sais pas, mais au bout d'un moment, les prix vont baisser, et peut-être pas l'iPad, peut-être que l'iPad restera cher, mais ce type de tablette, il y en aura au bout d'un moment qui seront beaucoup moins chères.
Si, clairement, oui.
Et à ce moment, ça sera effectivement...
Mais aujourd'hui, le prix reste un frein. Hein. Ah c'est clair que voilà, j'ai beaucoup de gens qui aimeraient en avoir un, mais voilà, quoi, quand on annonce les prix, ça reste un gros frein. Quoi. Mais c'est un bel appareil, ça, il y a pas de doute à ce niveau-là.
L'autre chose que j'évoquais il y a quelques minutes, c'était le Motorola Zoom et le Galaxy Tab. Bon, le Galaxy Tab, le premier est sorti, mais on se demande vraiment, moi c'est le truc qui m'a le plus choqué, c'est où sont les concurrents ? Parce que l'iPad, maintenant, l'iPad 2 est sorti et il a un succès énorme aussi, mais où sont les concurrents, quoi ? Les tablettes sont disponibles, enfin, on nous parlait au CES de 2010, c'était le raz-de-marée des tablettes. En 2011, c'était l'invasion des tablettes. Et malgré ça, il y a un petit zoom un peu timide qui a l'air sympa, mais qui n'est pas complet, qui n'a pas le flash qui nous avait été promis, etc. Le Galaxy Tab qui est toujours sous Android 2.2 et qui va continuer. Le Playbook de RIM qui va sortir peut-être un jour si on le... Enfin, c'est invraisemblable, quoi. Enfin, je sais pas, moi...
Et c'est là où je reviens sur une chose que tu as dit, ça remet l'iPad... au niveau de sa concurrence. Non, la concurrence avait presque fait leur catch-up avec l'iPad 1 en sortant le Zoom, etc., 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 avec l'iPad 2, donc qui amène ce nouveau cette densité plus importante des composants, donc c'est plus petit avec un graphisme beaucoup plus rapide, etc. Ils sont partis en pleurant en disant bon, c'est bon, on n'est pas on aura on vendra pas une seule de nos cochonneries en 2011. Et quand on entend le CEO de Samsung te dire bon bah les gars, on verra plus tard, c'est exactement ça qui se passe. Donc
Non, mais c'est décevant, quoi.
Se sont repris une.
Attends, fini Jeff. Fini Jeff, on t'a pas entendu.
Je dis, ils se sont repris une année ou 9 mois ou 12 mois d'exclusivité sur la tablette avec ce nouveau produit.
Non, je pense pas que. Enfin, je partage partiellement le point de vue, l'analyse de Jeff. Enfin, là, on vient d'apprendre, par exemple, que Microsoft repousse encore la sortie de leur tablette à 2012. Bon, alors effectivement, on peut prendre ça comme une inquiétude. On se dit voilà, qui tâtonnent, qui savent pas vraiment comment s'y prendre face à la concurrence. Mais bon, en même temps, voilà, on vient de le dire, l'iPad 2 est être très bon périphérique. Il fait, il fonctionne très très bien. Et quand on veut s'attaquer à un truc comme ça, on n'a pas trop droit à l'erreur. Donc, si jamais il faut reculer de quelques mois, voire d'une année, la sortie de son appareil, on ira, quoi. Moi, personnellement, je préfère que Microsoft retourne travailler davantage sur sa tablette et nous sorte un truc qui dans l'envergure du Windows Phone 7, parce que bon, ils ont pris leur temps quand même pour sortir ce machin-là. Qu'on voit à quel moment dans l'histoire des consoles de salon, à quel moment Microsoft a débarqué sur ce marché, ils sont arrivés tard, sur
Ah non,
troisième,
c'est
quatrième
sûr.
génération. Mais
Peut-être que dans
voilà,
5 ans,
aujourd'hui,
peut-être
la
que dans 5
Xbox,
ans. Oui, peut-être que dans 5 ans, Microsoft aura conquis le marché des tablettes, c'est possible. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est
il n'y a
quand
pas
même.
urgence. Il n'y a pas urgence. Enfin, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les tablettes, enfin, qu'on parle d'une tablette du niveau de l'iPad 2, je crois que c'est Jeff qui disait il y a un ou deux rendez-vous tech que son iPad lui est revenu à 1 000 $. Ça reste un produit excessivement cher. Tout le monde ne peut pas se
Oui,
permettre
non, mais bien
de
sûr.
s'acheter un
Non, mais
truc comme
attends.
ça. Donc.
On n'est pas en train de dire est-ce que les tablettes en général sont chères ou pas. On est en train de parler de ce marché qui existe, qui est extrêmement important alors qu'il n'existait pas l'année dernière, et qui est où Apple a le champ libre, alors que a priori on aurait été en droit de penser que les constructeurs avaient appris des retards qu'ils ont pris sur l'iPhone. Et aujourd'hui, ils ont finalement réussi sans doute à le rattraper plus ou moins sur l'iPhone, mais ça a pris quand même 4 ou 5 ans. Et sur les tablettes, on avait l'impression que ça n'allait pas être le cas, et on se rend compte que c'est le cas. Donc, enfin, il y a quelque chose
Mais
d'étonnant quand même là-dedans, je
quand
trouve.
tu as vu les CES, les salons, il y a des tablettes, franchement, qui t'ont dit, ah oui, ça éclate largement l'iPad, dès qu'il sort, je l'achète. Non, on n'en a pas vu des tablettes comme ça.
Bah,
Donc,
c'est bien
du
ça qui
coup,
est
ça,
inquiétant.
c'est bien pour
Mais
ça qu'il.
il faut pas oublier ça fait des années que les différents constructeurs essaient de sortir des tablettes pour occuper le marché parce qu'ils
Oui,
ont
mais enfin là, ils ont un
identifié
modèle
qu'il y avait
quand
une
même.
opportunité. Et non, mais attends, justement, c'est ce que je dis, c'est que Apple, c'est le premier qui a sorti un truc qui était pas forcément ce que le monde attendait, parce que personne n'avait
Ah
véritablement
bah
une idée de ce que
carrément
ça
pas,
voulait
oui.
dire, une tablette, mais en tout cas, ils ont sorti ce truc et tout le monde a dit, oh la vache, je le veux. Et c'est pas uniquement un phénomène, je dirais, de fanboy, parce que bon, si l'essentiel des ventes se passait dans un rayon de 100 miles autour de Palo Alto, je te dirais effectivement, c'est les early adopters qui ont pris ça. Mais je
Ah
pense que ça a
non, mais
vraiment
personne
répondu à
ne
un
pense
besoin.
que c'est juste les fanboys, hein.
Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où les autres vendeurs ont réagi en sortant des produits qui sont pas si mal que ça. Je veux dire, le Zoom, c'est pas mal,
Ah oui,
mais
c'est sûr.
ça arrive pas à la cheville de l'iPad 2. Et donc, peut-être que ça prendra du temps à ce qu'un Microsoft sorte avec Windows Mobile 8, 9 ou 10, parce que je peux te dire qu'avec le 7, ils vont pas aller loin. Je viens de récupérer mon téléphone Windows Mobile 7. Il y a du boulot. Ça veut dire qu'une fois de plus, Apple a réussi à trouver la bonne. la bonne balance entre la fonctionnalité, l'utilisation, le beau, enfin c'est un très beau produit.
Ouais.
Et pour reprendre ce que tu disais, Yann, sur le prix, c'est quand tu rajoutes l'extension de garantie que je prends systématiquement sur les produits au cas où. Mais tu peux aujourd'hui acheter une tablette pour $499
Ce
plus
qui
les taxes.
reste
Donc
excessivement cher, donc.
oui, bon, ok, mais bon, repartons pas sur le jugement de l'iPad en lui-même. Entre parenthèses, le zoom
Non, je juge pas
est à
l'iPad,
800,
je
donc
dis.
oui, c'est aussi encore plus cher, tu vois. Donc,
Ouais.
Ouais, justement.
ouais, bon, il y aurait plein d'autres choses à dire sur l'iPad, mais je veux pas. Bon, je voudrais qu'on parle un petit peu d'autre chose et pourquoi pas de Twitter. On a la Satosphère d'ici la fin de l'émission qui va nous parler un petit peu des statistiques de Twitter, mais. On a eu quand même un changement intéressant dans la politique de Twitter la semaine dernière, avec une déclaration aux développeurs de la part de Twitter qui, en gros, leur a dit bon, écoutez les gars, des applications tierces qui servent de clients Twitter, aujourd'hui, on en a suffisamment. Donc, arrêtez d'en faire parce que on va fermer les vannes. On va plus vous autoriser à faire des applications supplémentaires. Il y a une application officielle. Les autres, alors celles qui existent déjà peuvent continuer à exister, bien sûr, mais celles qui font exactement ce que fait l'application officielle, non, on n'en veut plus de nouvelles. Si vous avez des fonctionnalités différentes du type Instagram, co-tweet ou des choses comme ça, pas de problème. Par contre, si vous faites exactement ce que fait l'application officielle Twitter, eh ben, on veut plus de nouveaux arrivants sur ce marché-là. Ça a été évidemment un énorme coup de pétard dans la fourmilière. Je sais pas si c'est une expression officielle.
L'image
D'accord.
fonctionne.
Mais parce que, évidemment, Twitter, le succès de Twitter vient des applications tierces et de l'implication des développeurs de leur écosystème. Alors, ça sentait un petit peu mauvais depuis un moment, mais là, c'est clairement, c'est merci, au revoir. On peut parler des causes et des conséquences ensuite, mais déjà, je vais vous demander votre avis sur la chose, première réaction. Jeff, peut-être, qui est plongé dans ce milieu des startups et des gens qui font des choses avec d'autres gens et avec Twitter.
Donc je vais rappeler mon disclaimer. J'ai des actions Twitter, mais je sais rien du tout. Je ne connais rien de leur stratégie parce que je suis un petit actionnaire. Le problème qu'ils ont eu, si tu veux, c'est que il y a très longtemps, Twitter avait dit, on a twitter.com, on a les API, on est un outil de communication, go to town, comme on dit. Donc
Donc,
allez-y,
faites-vous
développez les
plaisir, quoi.
fonctionnalités que vous voulez au-dessus. Et ils se sont rendus compte, et c'était du temps où en fait Twitter n'avait aucune idée de comment ils allaient monétiser, faire de l'argent donc en tant qu'entreprise. Et donc c'était vraiment une façon pour eux de construire un écosystème en bénéficiant de tout le travail que bah, les développeurs d'applications allaient mettre autour de cette plateforme. 2, 3 ans plus tard, ils se sont rendus compte que bah, c'était un problème, qu'une grosse partie de la monétisation ou du potentiel de monétisation de Twitter se trouvait au sein des applications. Et donc c'est là où ils ont commencé à dire bah, en fait on va racheter Tweety par ici, on va racheter un autre truc par là, et je pense que bah, ce que tu vois aujourd'hui, c'est une tentative un peu maladroite de dire bon bah en fait on a besoin de contrôler à la fois l'expérience utilisateur des utilisateurs, enfin des gens qui viennent sur Twitter. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont un problème, je dirais, de rétention, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui créent des comptes. Ils ont annoncé 460 000 nouveaux comptes créés chaque jour, mais ils n'ont pas 460 000
Utilisateur
utilisateurs
actif,
actifs
quoi.
chaque jour, d'accord? Et donc ils ont besoin d'avoir une interface assez cohérente de manière à offrir bah, la meilleure expérience possible pour ses utilisateurs. Donc ça, c'est en gros l'excuse. Le problème, comme tu le dis, c'est que bah, la communauté n'a pas été habituée à ce qu'on ferme les vannes de cette façon-là. Ça fait quand même un bout de temps que ce genre de choses étaient discutées plus ou moins
oui, on
avec,
sentait
avec
venir
les
quand même.
développeurs. Je veux dire, la première révolution, c'était quand même il y a 18 mois, quelque chose comme ça. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils poussent énormément les développements de solutions verticales. Moi, j'ai j'ai plein d'investissements qui grenouillent autour de Twitter, que ce soit Sismic, que ce soit Gunip, que ce soit les différentes boîtes. Et ils essaient en fait d'aider chacun à se positionner dans une expansion, si vous voulez, de l'écosystème Twitter. Le problème, c'est la grosse question que même nous on se pose, c'est une fois qu'ils ont rebouclé toute la partie client.
Qu'est-ce qu'ils vont faire
étape.
Après, quoi. Ouais, c'est voilà. sûr. Et j'ai beaucoup entendu parler d'une raison qui me paraît cohérente. Tu vas me dire ce que t'en penses. Enfin, tous les deux, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais c'est le fait que on a depuis quelque temps les promoted tweets et promoted topics. Qu'est-ce que les promoted trends, voilà. Trending topics qui sont en gros de la pub et ils se font c'est comme ça qu'ils c'est un de leurs moyens principaux de monétisation en ce moment donc un tweet ou une pub payée par un annonceur que vous allez voir passer sur le client sur le web et depuis peu avec l'ajout d'une petite barre supplémentaire sur l'iPhone et l'iPad et les éditeurs tiers. Si vous utilisez par exemple Sismic ou TweetDeck ou des trucs comme ça, vous n'allez pas avoir
c'est la discrétion du développeur. Hein.
Voilà. Donc, est-ce que c'est pas aussi un moyen de dire on préfère que les gens passent par notre plateforme pour que on puisse monétiser le service. Et en même temps, j'étends ma question, est-ce que c'est pas un petit peu normal que Twitter essaye de ranger un petit peu, d'arranger un petit peu les choses et de faire le ménage, non pas dans le sens où ils veulent virer des gens, mais de nettoyer un petit peu l'expérience utilisateur et leur business, parce que ça fait 4 ans qu'ils tournent avec un truc qui coûte désormais hyper cher et qui rapporte pas d'argent. Donc, et c'est un service qu'ils offrent gratuitement. Donc à un moment, est-ce qu'il n'est pas normal de se dire oui, ça ne fait pas propre avec les développeurs, mais leur démarche est aussi compréhensible. Yann, toi qui es développeur, j'imagine que ça ne te plaît pas énormément ce type de...
Enfin, non, pas vraiment. En tant que développeur, c'est pas quelque chose qui m'enchante. En même temps, je peux comprendre pourquoi ils le font, mais ça me rappelle à un certain degré ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment avec Apple, avec leur histoire d'abonnement sur iPad. C'est-à-dire qu'on change les règles en cours de jeu. C'est-à-dire qu'au début, le truc démarre et on dit, ben on a une API ouverte et faites-vous plaisir et aidez-nous à promouvoir notre plateforme qui est super cool et super ouvert, etc. Et une fois qu'on a atteint un certain nombre critique d'utilisateurs et que là, ben on peut vraiment passer la seconde et enclencher un business model solide, ben à ce moment-là, on change les règles du jeu et tous ceux qui s'étaient investis, qui ont même construit leur société autour de Twitter, se retrouvent le bec dans l'eau et donc voilà quoi, c'est un petit peu frustrant comme ça de se dire qu'on est à la merci de Twitter. En même temps, comme tu l'as dit, c'est leur boîte, c'est leur API, ils sont dans leur droit de changer leur API. Si demain ils décident de couper l'API complètement, de couper le service complètement, ils peuvent le faire. C'est quelque chose qui.
En gros, même toi, en tant que développeur, c'est pas un truc qui te met hors de toi parce que ça serait scandaleux. C'est juste, bon, oui, effectivement, ils ont le droit, mais c'est un petit peu rude. Enfin, c'est pas très.
Ah oui, non, mais il y a deux choses. Il y a le côté qu'est-ce qu'ils peuvent faire, il y a le côté comment ils peuvent annoncer, introduire, présenter ce genre de choses. Mmh. Et la grosse erreur qu'ils avaient fait il y a un an et demi, quand ils avaient commencé à racheter en fait quelques clients pour qu'ils deviennent les clients officiels Twitter, c'était qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils avaient balancé de l'eau froide sur tout l'écosystème qui était en train de se développer. Et ils n'avaient vraiment aucune idée. Et ça, c'était une erreur, en fait, stratégique. Aujourd'hui,
annoncent la couleur. Donc
aujourd'hui, tu vois, c'est ça, ils clarifient au minimum. Personne ne peut dire, je ne comprends pas, j'ai développé un client, pourquoi est-ce que je ne peux pas l'utiliser?
D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, les développeurs nous demandent plus de clarté dans nos règles. Et là, on énonce les choses clairement. Donc, c'est en même temps compréhensible aussi, quoi.
Donc, je veux pas dire qu'ils ont raison, mais tu peux pas leur jeter la pierre de pas en fait clarifier ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, etc. La question c'est est-ce qu'ils vont s'y tenir, est-ce qu'ils vont rester en fait sur cette espèce de périmètre qu'ils ont tracé autour du corps de Twitter avec les clients, ou est-ce que derrière ils vont se dire ah bah finalement tiens on va aussi prendre ci, on va aussi prendre ça, et à ce moment-là ça commencerait à être compliqué. C'est quelque chose que Facebook a quand même très bien fait, où depuis le jour ils ont annoncé la plateforme F8, donc il y a 3 ans, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'évolutions, mais ils ont rarement dit bah tiens finalement ça c'est pour nous.
Ouais, d'accord. Et ça peut peut-être faire réfléchir les gens en se disant, enfin, après tout ce qui s'est passé avec Twitter notamment, le fait de se dire baser tout son business sur une plateforme, c'est un petit peu délicat aussi. D'ailleurs, enfin, moi je dis ça.
Ouais, mais c'est comme ça que le truc il a été vendu à la base. Enfin,
oui,
je veux dire,
c'est sûr. Mais justement, il faut jamais être complètement dépendant d'un truc dont tu n'as pas le contrôle. Moi, tu sais, nous ça nous fait beaucoup. Enfin, on y réfléchit. On n'a pas attendu Twitter pour réfléchir à ça, mais on est une partie de notre trafic vient d'iTunes pour NoWatch, qui est une boîte qui est en train d'essayer de se monter et d'aller de l'avant courageusement. C'est sûr que, par exemple, si demain Apple dit bon bah iTunes, on va fermer les podcasts parce que ça nous intéresse pas, bon, ça risque pas d'arriver, hein, mais effectivement, c'est un truc un petit peu compliqué à gérer. Donc nous, on a aussi intérêt à avoir des alternatives et des. Je veux dire, c'est des choses dont il faut se rendre compte. Et si demain Apple nous dit bah on ferme les podcasts iTunes, c'est leur plateforme aussi. Et on peut pas leur dire « Bah non, c'est dégueulasse, maman, il y a iTunes qui a fermé, quoi.
Enfin, » Ah, tout à fait. Bon, ah,
là,
non,
ça va arriver. Mais... ouais, AVVD dans la chatroom dit « J'ai découvert sans iTunes. » Oui, bien sûr, nous, on a une existence à côté, bien sûr aussi. Mais imaginons qu'on soit entièrement basé sur iTunes, qu'on n'ait ni compte Twitter, ni compte Facebook, ni site web, ni machin, ni rien. Ça serait hyper dangereux comme approche, parce qu'on est à la merci d'iTunes. Et même si Twitter a dit « Allez-y, c'est la fête, on ouvre l'API, machin », baser tout ton business sur un mec qui peut fermer le robinet du jour au lendemain, c'est un petit peu risqué, quoi.
Ouais, mais ça c'est juste un aspect qui me dérange en tant que développeur. L'autre truc, c'est ils ont évoqué à plusieurs reprises cette histoire de liste blanche, où finalement Twitter aurait une liste d'applications qui sont conformes à l'état d'esprit qu'ils veulent insuffler au niveau de la communauté développeur. Donc voilà quoi, des bons élèves finalement, des clients qui suivent bien la philosophie Twitter. Et moi ce qui me fait un petit peu peur, c'est que cette liste blanche qui aujourd'hui est juste une recommandation, une philosophie à suivre, deviennent demain, ben voilà, pour avoir un client Twitter, il faut que vous soyez dans cette liste blanche. Et si un jour vous arrivez à être dedans, si vous avez le malheur dans votre client de faire un truc qui ne nous plaît pas trop, ben comme ça on peut vous dégager. Et voilà quoi,
c'est rude, mais c'est la politique Apple quoi, c'est si ça vous plaît pas vous dégagez quoi.
Enfin il y a beaucoup c'est ça, il y a Apple, c'est exactement ça, hein. Avoir ton application acceptée sur l'App Store si jamais tu passes au travers de ça. Donc je suis moins chagriné avec cette approche qui est s'assurer une interface consistante avec les utilisateurs, mais plus le côté comment on fait évoluer notre propre aspect économique. Et c'est vrai que c'est le cas de toutes les plateformes qui se développent, hein. Je veux dire, Twitter n'a que 5 ans, enfin Twitter a 5 ans depuis 2 jours, enfin il y a 5 ans et 2 jours Jack Dorsey avait commencé à travailler sur le projet Twitter, donc c'est relativement récent, et je pense que c'est pas la dernière des évolutions que l'on va voir. Cette notion que vous mentionniez qui était c'est dangereux de se développer au-dessus d'une plateforme comme ça, c'est vrai, mais d'un autre côté, pour des dizaines ou des centaines de développeurs d'applications, c'est un réseau de distribution absolument monstrueux qui leur donne accès à des dizaines ou des centaines de millions d'utilisateurs qui leur aurait été impossible d'accéder par le passé. Et donc, c'est un peu, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit.
Ouais, c'est dangereux, mais c'est en même temps une opportunité qu'il n'y aurait pas forcément ailleurs. Et c'est le cas pour toutes ces plateformes dont on parle. Je veux dire, Apple a aussi construit ce catalogue, que ce soit de podcasts. Oui. Enfin, ils donnent accès à une audience dans, avec leur catalogue de podcasts et avec leur App Store ou Facebook avec sa plateforme, etc. Donc oui, ça va dans les deux sens, c'est certain.
Et donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que si on se recule un petit peu de la situation et qu'on voit.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
L'évolution des applications, l'évolution de certains des services qui ont atteint des pénétrations en termes de dizaines de millions d'utilisateurs en l'espace de 1 ou 2 ans. Je veux dire, ce matin, on a vu passer une news comme quoi Doodle Jump, qui est un jeu très très sympa, très rigolo sur iOS, a atteint 10 millions de downloads avec zéro marketing, et c'est deux gus et un consultant qui développent ça. Je veux dire, les mecs, ils se sont mis 10 millions de dollars dans la poche, donc après la commission d'Apple, c'est 70%, donc
ça prend quand même
7 millions de dollars à deux pour 2 ans de travail. Tu m'excuses? Hein,
ah oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est exactement ce que je disais à propos. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais vous vous souvenez des histoires d'abonnement pour les journaux et des 30% que voulait prendre Apple. Effectivement, ils offrent une audience que les personnes qui utilisent leur système n'auraient pas ailleurs. Donc oui, on est d'accord. Avançons un petit peu avec une décision de justice aux États-Unis qui concerne Twitter, qui est assez intéressante, puisque le gouvernement américain voulait avoir des informations sur des échanges de messages qui utilisaient Twitter à propos de l'affaire WikiLeaks. Et ce qui s'est passé, c'est que le système judiciaire américain a estimé qu'il n'avait pas besoin de mandat pour obtenir les informations qu'il demandait, à savoir qu'il ne voulait pas connaître le contenu des messages, mais il voulait simplement savoir qui avait envoyé des messages à qui et à quelle heure. Alors, pour les messages publics, évidemment, ça ne pose aucun problème parce qu'ils les auraient eu de toute façon, mais ils ont aussi demandé les messages privés. Et il se trouve qu'il y a une provision, je ne veux pas utiliser de terme légal que je ne connais pas, mais une procédure légale qui permet d'obtenir ces informations qui sont un petit peu les mêmes, considérées comme identiques à, par exemple, des informations du type données GPS d'un appareil téléphonique, que les organisations gouvernementales américaines peuvent obtenir sans mandat, simplement en allant sur un site web qui a été mis en place par les opérateurs téléphoniques américains, puisque ces informations sont vraiment accessibles sur un coup de tête. Il suffit de payer, genre, je ne sais plus combien c'est, 2, 5, 10 dollars pour une requête de ce type-là. Et ils peuvent aller sur le site de AT&T, par exemple, et obtenir la position GPS de tel ou tel appareil. Alors déjà, ça, je veux dire, si vous avez réussi à comprendre la chose, c'est un petit peu hallucinant, mais bon, c'est comme ça. Et là, en l'occurrence, ces données Twitter qui ne sont pas, je rappelle, le contenu des messages, ont été assimilées à la même catégorie de données et donc peuvent être obtenues sans même avoir un mandat. Je ne sais pas trop quoi en penser, en fait, de ce truc-là. Je ne sais pas si c'est totalement scandaleux ou si c'est compréhensible et raisonnable, parce que, bon, si c'est juste qui a envoyé à qui... Enfin, ça me paraît quand même un petit peu, pour le moins, étonnant qu'il n'y ait même pas de mandat. Moi, j'ai cette obsession, enfin, on dirait que c'est moi, mais j'ai quand même une obsession qui me paraît normale, c'est le fait de dire quand on demande ce type de données... Je ne veux pas forcément que ça soit hyper compliqué, mais au moins qu'il y ait un juge qui regarde les raisons et qui se dise ok, ça c'est justifié, donc on peut donner cette information. Maintenant, si c'est que, si c'est uniquement Jeff a envoyé un message direct à Patrick, ça donne pas énormément d'informations non plus, donc. Je sais pas. Vous avez une opinion sur
la écoute, ça peut te disculper d'une enquête qui où le faisceau de présomption s'épaississait sur ta personne. Hein. Donc personnellement, moi, ça me dérange pas plus que ça. Je veux dire.
Si par exemple Patrick, on le suspecte de communiquer, l'horrible Patrick est en train de communiquer avec Yann. Ils sont en collusion et en fait, il demande à savoir à qui j'ai envoyé des messages. Il voit qu'il n'y a pas Yann et ils se disent bon bah en fait Yann, il est cool, on va le laisser tranquille.
Voilà, exactement.
Ouais, ok, pourquoi pas. Jeff, t'as une opinion là-dessus ou...
Je pense que ça fait partie de ces discussions autour de qu'est-ce que tu peux faire passer sous le couvert de la protection des États-Unis et des lois antiterroristes. Donc clairement, après septembre 2001, le gouvernement américain a eu accès, s'est arrangé pour avoir accès à beaucoup plus d'informations qu'avant, sous le couvert en fait de toutes ces lois où il disait de toute façon c'est intérêt national, protection antiterroriste. In fine, moi j'ai rien à cacher donc ça me gêne pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en fait les organisations terroristes sont beaucoup plus fines, je dirais, dans l'utilisation du social media, des nouveaux moyens de communication, etc. Et donc, on essaie d'être traqué par ces moyens-là. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de soucis en tant que tel, mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui vont crier au loup par rapport aux libertés personnelles.
Bah, en même temps, si on se dit, c'est justement l'argument, décidément, on fait dans la politique, mais c'est l'argument... entre guillemets fasciste par excellence, si vous n'avez rien à cacher, bah ça vous dérangera pas que je fouille dans votre maison, tu vois. C'est le truc, c'est pas parce que j'ai rien à cacher que je dois autoriser qu'on fouille dans ma maison. Je suis pas en train de dire que là, en l'occurrence, ouais,
c'est
le cas là.
On fouille pas dans ta maison, on regarde juste ton courrier, on dit tiens, c'est un courrier qui vient de tel endroit et qui va à tel endroit.
Ouais. Donc là, pour vous, c'est encore un niveau d'intrusion qui est raisonnable pour...
Pour savoir qui a envoyé le message à qui, on ne va pas en faire tout un procès, quoi. Et c'est un petit peu le même type d'inquiétude qu'il y a autour de l'Opsi 2, qui pour le coup ne m'inquiète pas non plus tant que ça, quoi. Pour moi, c'est de la même trempe.
Bah justement, parlons-en de l'Opsi 2, puisqu'on est un petit peu dans le domaine. L'Opsi 2, donc, c'est cette loi qui vient d'être votée, qui a tout un tas de provision, je sais même pas si c'est... Enfin, je pense pas que ça soit le terme, mais tout un tas d'articles qui énoncent des nouvelles autorisations pour la police, pour les services de police, les services des douanes, etc., etc. Il y a énormément de nouvelles possibilités. Et la toile en France, c'est un petit peu... Oui, complètement. C'est vraiment enflammé depuis... Enfin, enflammé, non. Là encore, c'est un terme un peu fort parce que je crois que la plupart des gens ne savent même pas vraiment ce que ça existe. Mais les gens qui sont un petit peu concernés, comme je pense à Corben, qui est un ami qui en parle régulièrement sur son site, mais il y en a beaucoup d'autres qui en parlent, ils voient ça comme une sorte de monstruosité qui tue la vie privée. Et on l'a évoqué plusieurs fois dans cette émission. Et à chaque fois, moi, j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi c'est aussi scandaleux. Parce qu'il y a des... Il y a des trucs du genre, certains arguments dont parlent les détracteurs de l'Opsi, que j'écoute avec attention, sont des trucs du genre, on peut regarder vos emails, la police aurait le droit de regarder vos emails ou d'écouter des conversations faites par exemple, Skype ou d'autres, vraiment écouter vos communications. Et moi, l'impression que j'ai, je me trompe peut-être, mais l'impression que j'ai, c'est que à partir du moment où on considère que dans certains cas bien précis et dans certains cas encadrés, et là je reviens à la question du mandat, la police a besoin et a le droit d'écouter les conversations téléphoniques, a le droit de mettre quelqu'un sur écoute. Je ne comprends pas pourquoi il n'aurait pas aussi le droit de regarder les emails d'une personne qu'il considère comme un suspect viable dans une affaire criminelle. Donc, tout cet aspect-là me paraît, moi, pas du tout aussi scandaleux que beaucoup de gens veulent le faire penser. Je veux dire, je ne sais pas exactement, je n'ai pas toutes les cartes en main, mais mon impression est que ce n'est pas aussi scandaleux que ce qu'on nous dit. Maintenant, il y a un truc qui m'inquiète énormément, c'est le fait de bloquer certains sites web du web en France. En gros, cette loi, la même loi LOPSI, qui est vraiment une loi un petit peu fourre-tout, on met énormément de choses, donne aux autorités françaises le droit de faire bloquer un site avec mandat, etc. Donc c'est fait dans les règles, mais l'excuse étant pour bloquer les sites pédophiles. Alors, évidemment, dans le cas d'un site pédophile, c'est sur l'intention, on ne peut qu'applaudir. Je veux dire, évidemment qu'on ne veut pas que n'importe qui ait accès à des sites pédophiles, ou, enfin, on peut imaginer énormément de sites qu'on voudrait en théorie bloquer. Mais d'une part, nous qui sommes technophiles, nous savons bien qu'il est, je ne veux pas dire impossible, mais enfin vraiment hyper, hyper difficile de bloquer des sites complètement, et qu'il y aura forcément des trucs qui vont passer par un autre moyen, qui vont quand même réussir à passer outre ces blocages. Et d'autre part, la chose qui est vraiment la plus inquiétante, c'est que on commence en disant avec les sites pédophiles, et puis on sait comment ça se passe, c'est que ensuite, on inclut les sites qui sont apparentés à tel et tel truc, et puis c'est des sites de terrorisme, et puis c'est des sites de vente de drogue, et puis c'est des sites... Enfin, il n'y a pas de site de vente de drogue, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. On étend petit à petit le champ d'action de ces lois, et on se retrouve, effectivement, là, je pense que l'inquiétude est justifiée, on se retrouve dans... Il y a des gens dans le chatroom qui disent « si, si, je pense qu'ils disent qu'il y a des sites de vente de drogue
». Je pense, ouais.
Je vous assure que moi, je n'en sais rien. Hein. C'est pas vraiment mon truc, mais bon. Plus sérieusement, on se retrouve dans une situation où on étend le champ d'action des lois, et ça, là, ça devient un petit peu dangereux. Ce type de truc devient dangereux, quoi. Où on peut carrément censurer un site, même avec la meilleure intention du monde, la censure est jamais, jamais bonne. Et si avec un livre, par exemple, on peut dire, bon, bah, tel livre, s'il est, je sais pas, incitation à la haine raciale, pédophilie ou Dieu sait quoi, ce livre, on peut l'interdire, ok, pourquoi pas dans le cas d'un livre, mais la technologie est tellement plus complexe, Internet est tellement plus complexe que l'imprimerie, que c'est vraiment compliqué à gérer. Pour moi, c'est dangereux. Je flippe ou il y a un fond de vérité dans mon raisonnement.
Enfin, en ce qui me concerne, je pense que ces lois qui sont votées sont en partie, enfin, c'est des décisions qui sont prises, je pense, en partie par des gens qui ne comprennent pas complètement comment fonctionne Internet, et à quel point, on l'a vu avec Wikileaks, à quel point le fait de bloquer un site, de vouloir bloquer une information, ne fait au final que accélérer la vitesse à laquelle l'information se répand finalement, et ça ne fait qu'accentuer le truc. Donc ça, c'est contre-productif. Et honnêtement, je pense que voilà, s'ils ne l'ont toujours pas compris, ils vont l'apprendre très très vite. Donc au final, oui, techniquement, effectivement, c'est une loi qui permet de tomber dans des dérives qui ne me plaisent pas tant que ça, pas du tout même, mais franchement je pense pas qu'on en arrivera là. Je pense que ça va les desservir très très rapidement, et qu'ils vont réaliser finalement que voilà quoi, si effectivement un jour on voit qu'il y a un parti politique qui dit un truc qui n'arrange pas trop le gouvernement, qui essaye de taire le truc, ça va être une catastrophe pour eux. Donc du coup,
oui, non, mais là, je pense que, soyons clairs, je pense pas que ça arrivera, des trucs comme ça. Moi, c'est pas, enfin, je pense pas ni qu'un gouvernement de droite ni qu'un gouvernement de gauche ne puisse se permettre de faire bloquer un site d'un.
Bah, pourtant, quand tu vas sur des sites qui parlent de voilà des dérives de l'OPSI, on a l'impression que le gouvernement met ça en place notamment pour pouvoir contrôler les opinions sur Internet et des choses comme ça.
Oui, c'est, non,
beaucoup
oui,
de détracteurs ça... le présentent comme ça.
Oui, non, mais ça, à mon avis, ça, pour le coup, enfin, moi, j'y, enfin, c'est vraiment crier au loup et c'est de la théorie du complot, quoi, à mon sens. Mais
donc voilà, pour résumer, ça ne m'inquiète pas plus que ça, quoi. Si, ça m'embêterait que, voilà, qu'un attentat, on n'ait pas pu l'arrêter à temps parce qu'on n'a pas eu l'accord d'un juge pour lire un pauvre mail, quoi, alors que tout censé indiquer que si on avait pu le lire, ben, on aurait pu empêcher ça. Donc,
bien sûr, effectivement. Enfin, on parle pas de cet aspect de la LOPSI, hein. Jeff, Yann est un peu jeune et fougueux, hein, il est plein d'idéaux, mais peut-être que toi qui es un petit peu plus âgé, un tout petit peu, t'auras une opinion différente, en le sens que peut-être que nous, on a nous tous, hein, on a le nez un petit peu trop plongé dans la technologie, et quand on dit, et moi le premier, hein, oui mais ces mecs-là c'est des vieux, ils comprennent pas, ils savent pas comment ça marche, est-ce que justement c'est pas une bonne chose qu'ils puissent se sortir un petit peu le nez du quotidien et penser aux grands principes et se dire oui, effectivement, on sait pas comment ça, peut-être qu'on sait pas comment ça marche, mais il faut avoir le principe de se dire si un site est un site pédophile, il faut le bloquer. Est-ce que c'est pas une bonne chose d'en énoncer le principe, quoi?
Ouais, c'est un point de vue intéressant, puisqu'on faut pas oublier que les différentes catégories d'utilisateurs, les différents âges qui ont besoin en fait d'interagir aujourd'hui avec Internet n'ont pas le même bagage, n'ont pas les mêmes connaissances, et des choses qu'on considère faciles d'accès, etc. pour nous, on va essayer d'être progressiste, surtout ici dans la vallée, et on pense pas forcément toujours aux conséquences néfastes pour le reste de la société où tout le monde n'est pas forcément aussi avancé. J'ai eu une réflexion de ce type donc ce week-end, enfin la semaine dernière, il y avait Frédéric Mitterrand qui était dans la vallée, donc il a rencontré pas mal de leaders locaux, et on a eu une causerie avec lui samedi matin où on parlait justement de l'impact de la culture des œuvres électroniques, des droits d'auteur, du fait qu'il y avait une énorme désintermédiation dans le milieu de la musique et bientôt dans le milieu du livre, et sa crainte c'était qu'en fait on perde la qualité du travail en fait des éditeurs, etc. Alors que ma position c'était de dire ça donne un accès, les plateformes électroniques donnent, comme YouTube, comme le Kindle, donnent accès à des auteurs ou des artistes qui n'auraient autrement pas eu la possibilité de s'exprimer. Maintenant ils ont un endroit où ils peuvent le faire. Et en fait, son point de vue n'était pas faux, et la question c'est est-ce que c'est une transition douce ou est-ce que c'est une rupture?
Ouais.
Et je pense que si c'est des ruptures, il faut les accompagner. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, il faut bloquer les sites pédophiles, mais dans la partie évolution, je dirais, culturelle, on parle souvent de digital divide, et il faut éviter en fait que ça se produise, parce qu'il faut que toutes les générations se retrouvent dans ces outils qui sont extrêmement utiles et qui peuvent nous amener plus loin, quoi.
Ouais. Ouais, moi je suis quand même hyper. Internet, c'est quand même un petit peu mon bébé. Je me dis, j'ai grandi avec, c'est mon pote.
T'as inventé Internet ? Waouh !
Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme j'en parlais, je sais plus où je disais ça, mais c'est le cadeau de notre génération aux générations futures, quoi. C'est vraiment le truc qu'on aura fait dans notre vie, notre génération, c'est participer et faire naître cette nouvelle chose, quoi. Et je suis hyper protecteur d'Internet, donc mais malgré ça, enfin bon, je sais pas, l'opsi me fait pas, c'est juste ce point là précis, quoi. Mais vous l'avez entendu, hein, Jeff et Yann sont totalement pour l'opsi, donc Jeff et Yann facho, on l'a bien compris. Et on le note. Bon, parlons d'une dernière chose, encore une polémique avant de passer à nos quelques petits sujets supplémentaires. C'est le système de commentaires de Facebook qui a été annoncé il y a, je sais pas, ça doit faire une semaine et demie, quelque chose comme ça. En gros, je simplifie, mais c'est un système proposé par Facebook pour remplacer les commentaires sur n'importe quel site web. C'est-à-dire que si vous implémentez ce système, tous les commentaires d'un article sur votre blog vont être en fait des commentaires liés à votre page Facebook. Si vous mettez un commentaire sur un blog, et ben vous le mettrez en tant que vous sur Facebook. Donc il y aura votre nom, votre prénom, tout le monde saura qui vous êtes. Et sur Facebook, tout le monde saura que vous avez commenté sur ce truc. Et tout le monde sur ce truc saura qui vous êtes sur Facebook. C'est a priori un système intéressant, sauf que ça fait un petit peu disparaître la spontanéité. Enfin, ça, en tout cas, ça fait disparaître l'anonymité. L'anonymat, pardon. J'y arrive plus. Ça fait disparaître l'anonymat. Et énormément de gens disaient bah oui, mais sur Internet, il y a beaucoup trop d'anonymat. Donc les gens retombent au pire de ce qu'ils peuvent être parce qu'ils se foutent de savoir qui va les lire parce que personne sait qui ils sont. Marc Auton demande si c'est obligatoire. Non, c'est un truc que n'importe quel site peut implémenter s'il veut. Donc. On disait souvent, bah oui, Internet, c'est le royaume du « je fais ce que je veux parce que tout le monde est anonyme, donc tout le monde fait n'importe quoi ». Et là, on a eu une sorte de mouvement un petit peu inverse, notamment avec TechCrunch qui a implémenté ce système pour tester, pour voir ce que ça donnait. TechCrunch, c'est un des grands blogs américains, technologiques, sur le monde des startups. Et il y a eu un mouvement un petit peu de rejet en disant « bah en fait, les gens, comme tout le monde sait qui ils sont, ne peuvent plus dire ce qu'ils pensent vraiment et polissent vachement leurs pensées et donc on perd énormément de spontanéité avec ce système. Donc, c'est pas bien non plus. Jeff, toi qui es un quotidien, enfin un familier de TechCrunch et de ce type de système, t'as une opinion là-dessus ?
Personnellement, ce qui m'a énormément énervé depuis plusieurs mois, c'est le fait qu'on avait une bande de trolls qui étaient systématiquement dans les commentaires de TechCrunch et qui n'avaient aucune valeur et qui racontaient que des conneries, etc. Mmh. Et donc, en forçant cette identité, alors, et puis qu'on soit clair, si tu veux vraiment créer un faux compte Facebook et balancer des conneries sur TechCrunch, tu peux toujours le faire. Simplement, ouais. La barrière est plus haute. Et je pense qu'aujourd'hui, ça veut dire que tu peux clairement voir qui fait les commentaires et t'as une vraie discussion de gens qui sont responsables et des gens qui sont pas d'accord, ils le font dans leur propre nom. Donc pour moi, on s'est un peu débarrassé des trolls et franchement, j'ai pas du tout envie de les voir revenir.
Donc pour toi, c'est vraiment positif. Tu penses pas qu'il y a quand même une perte d'authenticité, enfin pas d'authenticité, mais tu vois,
quelle authenticité tu as à poster sous un faux nom ? Tu m'excuses hein ?
Je pose la question. Si tu as un truc que tu voudrais dire, mais que tu peux pas, enfin tu vois, tu peux pas forcément être aussi honnête. Genre, je sais pas. Par exemple, j'appelle Yann un jour et il me demande ah ouais, tiens, j'ai fait une nouvelle application iPhone, elle est super bien en fait. Ça t'affiche un serpent qui fait le tour sur lui-même. C'est super marrant, non ? Bah, s'il sait que c'est moi, je vais peut-être lui dire « Ouais, c'est sympa ». Mais s'il sait pas que c'est moi, je vais peut-être lui dire « Mais attends, c'est de la merde ton truc ». Et être plus honnête. Je joue l'avocat du diable, hein, mais je demande.
Ah non, mais c'est bon, j'ai compris.
Non, pour toi, c'est pas du tout le cas, Jeff.
Je pense qu'il y a effectivement des cas un peu particulier où les gens qui donneraient en fait un feedback, enfin tu vois, où si jamais ils publient quelque chose, ça pourrait les pénaliser personnellement, mais ce serait l'intérêt de tout le monde qu'ils le publient. Et c'est vrai qu'un système basé sur Facebook va l'empêcher. Mais je pense que c'est le genre de cas extrêmement rare où si quelqu'un veut vraiment publier quelque chose, il peut créer un pseudo-compte, ouais. Un pseudo-compte Facebook. Je dis, c'est quand même pas compliqué. Ouais. Alors que tous les connards qui vont raconter des trucs complètement tarés à longueur de journée et qui pourrissent en fait la conversation, ils sont là, c'est des pollueurs. Et je pense que les voir s'en débarrasser, c'est une bonne chose.
D'accord. Yann, le même avis, non ?
Je suis assez partagé en fait. A priori, comme ça, enfin, je me souviens d'un éditeur de jeux vidéo qui avait essayé d'implémenter quelque chose d'assez similaire dans sa communauté, et j'étais assez d'accord avec le fait de procéder ainsi, ouais. Avec le principe. J'adhérais tout à fait à l'idée de débarrasser finalement ces communautés des trolls, des messages blessants, gratuits, parce que justement la personne était anonyme. Maintenant, effectivement, en tant que développeur et même en tant que podcasteur, enfin producteur de podcast.
T'as eu ton lot de trolls sur, voilà. sur tes forums aussi. Ouais.
Voilà, exactement. Mais en même temps, à chaque fois que je sortais un épisode, il y avait des remarques qui étaient vraiment blessantes, quoi, des trucs qui faisaient vraiment mal quand tu voyais le temps que t'avais passé. Mais quelque part, même si c'était, je sais pas moi, 5%, il y avait une part de vérité, tu vois. Et donc, du coup, voilà, ça fait mal de l'entendre, mais en même temps, voilà, quoi, c'est quand même un feedback, tu vois. Et donc, du coup, si jamais il y avait, ben voilà, quoi, je voyais les noms de tout le monde, je pense que les gens auraient été beaucoup plus réticents à dire, ben, écoute, je trouve que ce que tu fais, c'est de la merde, quoi, et voilà, quoi. Donc, du coup, je serais super policé, comme tu le disais, et je perdrais finalement, perdrais en objectivité, et j'essaierais moins de me surpasser, quoi. Donc, voilà, j'ai peur, effectivement, qu'on perde ces messages spontanés qui, même s'ils sont parfois blessants, ben, permettent de faire évoluer les opinions et ouvrir de nouveaux débats, quoi. Donc, je suis assez partagé.
En même temps,
rien te force à implémenter les messages Facebook ou les commentaires Facebook sur ton système. Ouais. Tu peux garder Discuss.
Ouais, sûr,
Discuss, c'est un système qui te permet le commentaire anonyme. Je veux dire, la chatroom disait c'est la fin de 4chan. Non, parce que 4chan, par définition, c'est complètement anonyme et il n'y a pas d'historique. Donc je pense qu'il y a des modalités différentes sur un système comme TechCrunch où en fait on est censé quand même avoir une interaction de qualité, quelque chose d'intéressant. Enfin, je veux dire, franchement, ça pourrissait les choses, quoi. C'est tout.
Ouais. Et puis il faut dire aussi, il faut préciser, je crois que on est en train de donner l'impression que du coup il n'y a plus aucune critique. On peut tout à fait faire des critiques constructives. Et puis je crois que en fait le problème du troll, qui est vraiment la question qui est mise en avant par ce système, le problème du troll, c'est pas forcément qu'il critique, c'est la manière dont il critique et le peu de constructivité de la critique. Je sais pas si on peut dire ça, mais enfin il est tout à fait possible de faire une critique et d'argumenter et de dire les choses de manière intelligente, quoi.
Franchement, enfin, pour le coup, je pense qu'un troll, comme tu viens de le décrire, s'il commence à se dire, bon, je trouve que c'est de la merde, mais il faut que je fasse un truc.
Le troll veut cracher sa bile, donc.
Oui, voilà. Mais voilà, si du coup il doit se dire que il va falloir que je travaille, que j'argumente et tout, le fait que finalement je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être décrit ou j'aime pas l'article, bah, du coup il laissera rien du tout. Je pense pas que subitement les trolls vont se transformer en des personnes qui vont laisser un truc constructif, quoi.
Comme le dit Satanael.
Ils vont pas être là du tout.
Oui, comme le dit Satanael dans la chatroom, il dit le troll ne vient pas critiquer, il vient faire chier.
Et exactement.
C'est vrai, c'est pas tout à fait.
Exactement.
La même chose, hein. Bon, ok, bah écoutez, on va avancer avec. On va passer au. On a fini nos sujets principaux, donc on va passer au message de notre sponsor. Numericable, comme vous le savez, sponsorise cette émission et bien d'autres sur le groupe NoWatch. Et aujourd'hui, Numericable vous fait passer un message à propos de DOCSIS, qui est une norme de transmission de données. Et Numericable est en train d'implémenter la norme DOCSIS 3. C'est-à-dire que le plus important chez un fournisseur d'accès, c'est le réseau. Et il est extrêmement important de faire, d'avoir un réseau performant et un réseau fort. Et la norme DOCSIS, c'est une norme qui permet justement d'avoir un réseau performant et un réseau fort. C'est-à-dire que vous allez avoir une garantie de très haut débit jusqu'à 100 mégas et à l'avenir une possibilité de monter en puissance jusqu'à 250 mégas, c'est-à-dire que le réseau Mouse Costo, il est prévu pour aujourd'hui et pour l'avenir Numericable est extrêmement conscient de certains problèmes de connexion de masse qu'il peut y avoir sur certaines parties de leur réseau. Donc ils se sont dit, ok, puisque c'est comme ça, on va renforcer notre réseau en accélérant l'adoption de la norme DOCSIS 3, notamment sur trois villes en priorité qui rencontraient des problèmes de connexion jusqu'à maintenant, Paris, Lille et Marseille. Donc ils font un petit peu ce que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire renforcer les choses dès aujourd'hui pour l'avenir. Et en 2011, arrivent d'autres villes encore. Alors, premier trimestre, c'est Metz, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Brest, Joinville, Nantes, Asnières, Le Havre, Montpellier, Nancy. Donc ça doit être bientôt le cas puisqu'on arrive à la fin du premier trimestre. Ensuite, il y aura Toulon, Toulouse, Dunkerque, Reims, Suresnes, Tours, Valence, Versailles, Avignon, Bordeaux, Issy, Perpignan et Rennes pour le deuxième trimestre. Et au troisième trimestre, Saint-Étienne, Angoulême, Angers, Bayonne, Belfort, Béthune, Cannes, Clermont-Ferrand, Clé-sous-Bois, Mulhouse, Martigues, Nîmes, Niort et Saint-Germain. À chaque fois que je lis ça, j'ai plus de souffle. Mais donc voilà, il y a énormément de villes qui sont en train de passer à la norme DOCSIS 3 et ça veut dire une connectivité extrêmement solide pour vous. Donc si vous voulez faire votre test d'éligibilité à la fibre pour voir si vous avez la possibilité de vous connecter en très haut débit à 100 mégas, vous pouvez aller sur le site nowatch.net et cliquer sur la pub numéricable et à ce moment, ça vous enverra là-bas. Vous pourrez faire votre test d'éligibilité. Et en plus, vous le direz à Numéricable que vous êtes passé par nous. Donc, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous aide énormément aussi. Donc, sur nowatch.net, vous cliquez sur Numéricable. Merci à eux. Et on enchaîne avec nos news suivantes qui sont une série de petites news sur lesquelles on va passer assez vite. Je crois que Jeff, t'as plus énormément de temps, donc on va...
Ouais, j'ai genre 5 minutes parce que nous on est passé déjà en Daylight Saving Times, donc on a 10 heures de différence avec Patrick là.
D'accord. Donc bah écoute, quand t'as besoin d'y aller, tu nous dis. De toute façon, on va aller très très vite. Un film WikiLeaks peut-être produit par Spielberg bientôt. Intéressant.
Qui joue Julian Assange?
c'est une excellente question. Microsoft a sorti
John Malkovich, il avait les cheveux. Moi je dis.
Pouf. Oula, oui, remarque qu'il a bien l'air un petit peu, le regard un petit peu étrange, John Malkovich, je le verrai. Attends, pas
c'est
mal.
C'est un acteur extraordinaire.
Ouais, tu sais, moi j'en suis revenu de Malkovich, hein, mais bon. Microsoft a sorti Internet Explorer 9, provoquant une explosion de joie dans le foyer Allais, puisque Yann est un grand fan de Microsoft, mais cette explosion de joie a bien vite été tempérée par la sortie du site du compteur de Internet Explorer 6, puisque Microsoft veut absolument se débarrasser complètement d'Internet Explorer 6, et là, Yann a quand même versé une petite larme, puisqu'il collectionne tous les navigateurs Internet de Microsoft.
Microsoft.
Et son préféré était Internet Explorer 6, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, hein, tu m'en voudras pas de révéler cette information, le nom officiel de son fils.
Rien ne valait AI 4, je voilà. sais.
Bon, Internet Explorer 9, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est un, a priori, d'après ce qu'on a entendu, un bon navigateur. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez un truc à dire. Western Digital rachète les disques durs Hitachi, ça veut dire que c'est le gros mastodonte, il ne reste plus que deux, si je ne m'abuse, deux constructeurs de disques durs, Western Digital et Seagate. Il va y avoir des pubs dans Skype. Bon, pourquoi pas, hein, Skype est un service gratuit, a priori, il faut bien qu'ils fassent de l'argent d'une manière, et ça sera des pubs une fois par semaine ou genre une fois par jour, je ne sais plus, mais enfin... Ça va s'afficher dans votre fenêtre et puis vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus. Free est en train d'avancer.
Juste rajouter une chose, c'est que je ne sais pas ce qu'ils ont fait chez Skype, mais depuis plusieurs mois, ils détruisent leur interface utilisateur. Et maintenant, allez, ah, comme énorme. Je l'ai tweeté il y a maintenant une petite heure, it's unfucking usable.
Elle est un tout petit peu moche, j'avoue. C'est un
petit peu bizarre. Non, non, ce n'est pas une question de moche, pas moche. C'est inutilisable.
D'accord. Ouais, c'est clair.
C'est tout. Ouais.
C'est que c'est... Oui, dans la chatroom, on me demande les pubs dans Skype, c'est comment ? Non, c'est pas des pubs qui vont interrompre vos conversations. Hein. C'est juste une pub qui s'affiche dans la fenêtre Skype. Free utilisera le réseau d'Orange pour son réseau de téléphone mobile, donc ça avance de ce côté-là. Un système intéressant pour en Suède, il remplace les timbres par des SMS. Et ça, franchement, je trouve ça très très fort. Je ne sais plus comment. Wow. Oui, tu envoies un SMS, ça te donne un code, tu écris le code sur ta lettre et ça remplace ton timbre. C'est top, non ? Moi, je dis, la poste, il y a du boulot.
D'accord.
Plaf, 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 est-ce qu'il y a encore d'autres choses ? Kinect a vendu 10 millions, enfin, Microsoft a vendu 10 millions de Kinect, incroyable. Succès monstrueux, confirmé. Microsoft abandonne le Zune, enfin, le player en tout cas, mais le Zune.
Le what ?
Ah, oh, c'est bon, ça va.
Le Zune, ça s'appelle Zune en fait. Non,
bon, en France, ça s'appelle Zune.
Et oui, et donc, wow. Microsoft abandonne le Zune, mais le logiciel Zune, le lecteur MP3, reste quand même en place dans ses Windows Phone avec le Zune Software. Donc, ok, ça va quand même, tout n'est pas mort. Il y a une rumeur selon laquelle Apple ralentirait les applications web quand elles sont implémentées sur, enfin, mises en tant que web app
ça,
avec leur propre icône.
Hein.
Mais on ne sait pas exactement de quoi il en s'agit. Il s'agit, c'est un truc qui vient de sortir. Donc, c'est vraiment rumeur. Il y a peut-être une explication. On en parlera peut-être la prochaine fois si ça grossit. Mais voilà, c'était notre dernière nouvelle sur les infos de l'actualité tech de ces deux dernières semaines. Ce qui nous amène à notre conclusion. Et à enfin un numéro de la Statosphère, envoyé comme toujours en temps et en heure par Guillaume. Et cette fois-ci, je l'ai, donc je ne manquerai pas de l'inclure dans l'épisode. Attends, on va voir si ça marche. Mais voici la Statosphère.
Salut à tous. Saviez-vous que le tout premier tweet fut envoyé il y a tout juste 5 ans, 7 semaines, le 21 mars 2006 ? Twitter n'était alors qu'un prototype, sorte d'embryon de ce que le service est devenu aujourd'hui. Sur son blog, l'équipe de Twitter en profite pour revenir sur quelques chiffres symbolisant l'ascension du célèbre service de microblogging. Aujourd'hui, les utilisateurs de Twitter envoient 1 milliard de tweets par semaine. Or, à ses débuts, il fallut compter pas moins de 3 années tout entières pour atteindre le premier milliard. Chaque jour, l'ensemble de la communauté Twitter diffuse pas moins de 140 millions de tweets par jour. Il y a à peine un an, c'était 3 fois moins. Le record d'envoi instantané de tweets revient au Japon pour le nouvel an. Imaginez près de 7000 tweets envoyés simultanément quelques secondes après l'avènement de l'année 2011. Mais cette dernière année a également marqué l'invasion par Twitter des téléphones portables. Par rapport à 2010, près de 4 fois plus d'utilisateurs tweetent depuis leur smartphone aujourd'hui. Enfin, Twitter est également une entreprise qui s'agrandit au fil de son succès. En 2008, la firme n'embauchait que 8 employés. Depuis, le nombre d'employés a carrément été multiplié par 50. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Merci Guillaume. Donc effectivement, Twitter, oui, on rigolait en disant machin, plus d'applications tiers, ils font chier, ils font ceci, ils font je sais pas quoi. Quand on voit comment ils grandissent, en même temps, on comprend qu'ils aient besoin de nettoyer les choses aussi. Hein. Ils sont en train de devenir un petit peu sérieux, les garçons. C'est enfin non, bon, ça vous évoque pas plus que ça. Bon, on en a déjà parlé de Twitter. OK. Et en tout cas, ils sont très, mais c'est marrant, il y a enfin je suis désolé, mais vous vous souvenez quand on a commencé, je deviens nostalgique, mais quand on a commencé, on parlait de Twitter à chaque épisode. Et tout le monde nous, dans la chatroom, on nous disait mais qu'est-ce que c'est que Twitter, dans les commentaires machin, Patrick qui nous fatigue avec Twitter machin. Et aujourd'hui, imaginez-vous, auditeurs, est-ce que vous aviez un compte Twitter à l'époque, il y a 2 ou 3 ans ? Et aujourd'hui, évidemment que vous avez un compte Twitter. Non, il y a la moitié des gens qui disent bah non, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, enfin, je suis sûr qu'il y en a plein qui en ont, mais.
Non, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant quand tu vas au cinéma et que tu vois Pirates des Caraïbes, tu vois la bonne annonce qui passe, et puis après, tu as en bas écrit, voilà quoi, vous pouvez en apprendre plus sur notre flux Twitter, ou des grosses sociétés, voilà quoi, Coca-Cola, etc., et on voit Twitter. Et tu vois des grosses sociétés comme ça qui disent qu'on peut les joindre sur Twitter, tu te dis, mais finalement, les personnes qui ont conçu ce truc doivent se dire, voilà quoi, il y a 5 ans, qui aurait pu penser que notre petit truc serait à la fin du trailer de bande de Pirates des Caraïbes ou de Coca-Cola ou autre. C'est incroyable à quel point ça a grossi, quoi, et ça a pris une importance partout.
Et encore Facebook, qui est beaucoup plus gros que Twitter, il n'y a pas même de question là-dessus, mais Facebook, c'est un réseau social comme on les connaissait avant. Je veux dire, il y avait Friendster, MySpace, etc. Donc, ouais. Facebook les a remplacés. Twitter est sorti de nulle part. Et je disais à la fin de l'année dernière, ouais, bon, Twitter, c'est un petit peu le mouet de cette année parce qu'ils n'ont pas énormément fait évoluer le produit, mais en même temps, ils ont tellement grossi au niveau de la base d'utilisateurs qu'il s'est quand même passé des choses, quoi.
Enfin. Oui, et puis attends, faut pas oublier quand même le rôle prépondérant de Twitter et de Facebook dans des changements des révolutions comme l'Égypte, comme les différents du Maghreb qui sont un peu en feu à sang aujourd'hui, où ces moyens de communication ont permis aux différentes factions de s'organiser, de communiquer, de faire savoir au monde extérieur ce qui se passait, etc. Donc c'est aussi devenu quand même un un facteur de, je veux pas dire de liberté, mais en tout cas de liberté d'expression.
Ah bah, d'information, c'est sûr. Je veux dire, c'est marrant de regarder un petit peu, que ce soit CNN ou France 24 ou ce genre de chaîne, qui intègre Twitter notamment, bon, Facebook dans une certaine mesure, YouTube un petit peu plus avec la vidéo, mais Twitter de manière très très prépondérante dans leur système, dans leur processus de reporting, enfin de rapportage de l'information. C'est saisissant, quoi. Et en gros, ce que je suis en train d'essayer de dire là, c'est un petit peu compliqué, mais ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est on avait raison. Je veux dire, on était quand même là il y a bien un moment. Bon, ouais. On avait raison. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Comme d'habitude, je vais proposer à mes fantastiques co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver quand ils ne sont pas en train de parler dans le micro. Jeff.
Ben, Jeff, c'est tout. Twitter.com/Jeff. Et si vous vous intéressez à ce que fait mon fond, vous pouvez maintenant nous suivre sur Twitter.com/softtechvc. SoftTechVC.
Merci, Jeff. Yann, est-ce que tu es toujours présent sur la toile de l'internaute?
Oui, non, de temps en temps. Donc...
Pardon, on n'a pas entendu ce que tu dis, Jeff.
Non, je faisais une blague. Je disais que Yann nous avait lâché depuis qu'il avait quitté le rendez-vous tech.
Je n'existe plus.
Il n'est plus bien allé là où il était.
Mais bon, je tweet quand même de temps en temps, toujours à la même adresse, dans twitter.com/yannallet, YK2ZALET. Et puis toujours mon site web aussi, yannallet.com, sur lesquels je poste de temps en temps quelques articles. Voilà.
Ouais, et moi je tiens à dire que on était les seuls à l'avoir vu venir Twitter. Personne d'autre à part. C'était exclu, quoi.
Bah, ils seraient pas là où ils sont aujourd'hui sans nous.
Ça, ah bah,
c'est
carrément.
Indéniable.
Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et aussi sur Facebook, donc facebook.com/NotPatrick et facebook.com/ et twitter.com/NotPatrick. Mais surtout, beaucoup plus important de tout ça que tout ça, c'est le nouveau site de NoWatch qui est enfin disponible. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle et il est enfin sorti. C'est nowatch.net et franchement, il est super sympa. Je suis hyper fier de ce que c'est Cédric qui l'a fait principalement, hein, notre ami Cédric Bonnet, de ce qu'il a réussi à faire avec WordPress. Franchement, il est super joli. Il y a une présentation de toutes les émissions. Enfin, il y a No Watch TV, No Watch FM, The Lab sur le même site. Il fonctionne entièrement, évidemment, sur le web, mais sur toutes les plateformes mobiles, que ce soit sur iPhone ou iPad. Vous pouvez y aller et écouter ou regarder les émissions directement. Donc, compatibilité Flash, pas Flash, HTML5, tout ça sans problème. Vous avez accès aux différentes rubriques. Enfin, à la limite, c'est un site normal, si tu veux, mais d'une part, on l'a énormément attendu et en plus il fonctionne super bien, donc il y a encore quelques petits bugs qui restent dans le truc, mais on y travaille et il est hyper enthousiasmant.
Ouais, très joli,
hein. je suis vraiment, ouais, t'as vu, hein, il est sympa,
ouais,
quand même.
C'est vraiment la classe. Je suis fier de vous.
Ouais. Bah écoute, merci bien. Il y a Amia John Smith qui dit du web 1.0 de grand niveau. Merci, parce que franchement, le web 2.0, moi je dis, c'est une mode qui va bientôt passer. Non, franchement, il est beau, hein.
Ouais, il est très beau.
Moi, je le trouve vraiment très bien. Et je voulais dire un autre truc sur ce site. Oui, le fait simplement de pouvoir enfin avoir un site où on peut dire c'est notre adresse, c'est nowatch.net, et tout le monde peut y aller et tout le monde s'y retrouve, tout ce qu'on fait. C'est évidemment simple, mais c'est un truc qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant et dont je suis très fier. Voilà, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Je remercie encore une fois Jeff et Yann. J'espère qu'on te reverra très bientôt. Et on vous dit à dans 2 semaines pour une autre émission avec encore une petite surprise que, bon, je ne vais pas en dire plus. À dans 2 semaines. Oh. Ciao à tous.
Salut à tous.